Nous sommes le vendredi 24 février 2023, il sonne 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le Club La Presse sur Canal FM à Lomé ici, sur Radio Lumière à Anéro, sur Radio La Pelle, la Voix des Plateaux à Takpamé, Radio Centrale FM à Sokodé, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Daoul à Bassa, Radio Courtoisie à Dapan, mais également tous ces canaux numériques qui nous relaient dans le monde entier auprès de la diaspora togolaise qui maintient ainsi le contact avec la mère patrie. Nous vous saluons, vous toutes et vous tous. Grâce aux techniciens qui réalisent l'émission, Vitogbe Koku, Michel Tominga et Jérôme Akucha. Les confrères au studio avec autres personnes ressources que nous allons découvrir bientôt avec le menu. Mais l'occasion de nous rappeler que il y a déjà un an, c'était le 24 février 2022, que la Russie avait démarré sa guerre d'invasion et d'occupation en Ukraine. Et quand on considère les forces en présence et les alliés à visage découvert ou bien caché, on peut légitimement craindre que le monde joue dangereusement avec un conflit nucléaire. Nous espérons que Dieu nous mettra à l'abri de cet éventuel conflit. C'est pourquoi nous parcourons cette pensée du jour qui nous enseigne que ce n'est pas le coup de couteau dans le dos qui te tue. C'est plutôt quand tu te retournes et que tu vois celui qui tient le couteau. Thierry Afanoukwe, bonjour.
Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Je profite de l'occasion pour saluer. Ce matin, je n'ai que des amis autour du plateau, hein, David et puis Monsieur le maire. Et puis je salue Hussein Meterek, le DG de Dodo Cosmétiques.
Merci. Donc, ce n'est pas le coup de couteau dans le dos qui te tue, mais c'est quand tu te retournes et que tu découvres la personne qui tient le couteau. Le Club La Presse, qui est heureux hein, de voir sa palette élargie avec un nouveau journal et son directeur de publication, David Aoukou, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM.
C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui avec nous.
Plaisir partagé.
Tu portes une double casquette, à la fois directeur général, exécutif de l'ONG, mais ce qui nous importe ici, c'est ta qualité de directeur de publication du journal Hussein Meterek Info, paru aujourd'hui.
Oui, tout à fait.
Le magazine paraît une fois en deux mois.
Oui, une fois chaque deux mois.
Ouais, deux mois après, nous risquons d'oublier ce qui a paru.
Justement, c'est pour cela que nous faisons de gros efforts pour paraître une fois chaque mois.
Dieu fera.
Amen.
Eh bien, notre confrère qui a aussi une autre casquette, mais il n'oublie jamais d'où il est venu, c'est
Espoir
Koudjoji. Bonjour.
Bonjour Sass, bonjour Canal FM.
Quand on a été journaliste, on le demeure à vie.
Ah, justement, je suis toujours journaliste, même si aujourd'hui je suis dans les fonctions d'élu. Je sais que la source, la formation d'ailleurs, c'est le journalisme et je demeure journaliste.
Merci. Premier maire de la commune, Golf 1, Béafeu-Domo.
C'est le troisième adjoint au maire.
Troisième adjoint au maire de la commune, Béafeu-Domo, comme vous aimez le dire.
Oui, chez nous c'est Béafeu-Domo.
Béafeu-Domo.
Voilà. C'est le noyau ancien de Lomé de Bé.
Eh bien, si je considère le maire, je le vouvoierai. Mais comme c'est le confrère, tu permets qu'on se tutoie, Espoir.
On est en famille, il n'y a pas de souci.
Eh bien, il y a cette opération qui a démarré depuis quelques jours. Nous, les journalistes, nous en parlons. Mais c'est vous, les communes, qui menez cette opération. Nous avons souhaité que tu sois là pour nous en parler. Il s'agit de l'opération de désengorgement ou bien de désencombrement des voies publiques. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation.
Merci pour l'opportunité. On est là pour échanger là-dessus.
En plus de ce sujet, hein, les autres sujets de l'actualité, Thierry, comme ce rapport d'audit de la Cour des comptes sur le fonds de riposte gestion COVID qui ne finit pas, le gouvernement est passé devant l'Assemblée nationale en début de semaine. Les journaux continuent à revenir là-dessus. Nous allons en parler, tout comme autre sujet aussi, naturellement, les défis de l'opération de désengorgement des voies publiques. Et puis également, la problématique de la déclaration des biens et avoirs avec cette rencontre que la médiatrice ou le médiateur de la République, c'est selon, a eu avec le gouvernement il y a quelques jours. Voilà le menu du Club La Presse. Mais comme nous avons, c'est la première fois que David Aoukou est avec nous. Rebonjour David.
Rebonjour Sass.
Alors un petit mot sur le journaliste, sur le journal Hussein Métarek.
Merci.
Quelle est votre ligne éditoriale?
Tout à fait. Le bimestriel togolais d'information sociale Hussein Métarek Info est un démembrement justement de la fondation Hussein Métarek qui œuvre dans le social. Donc cette ligne nous aide à faire la sensibilisation. Tout ce qui concerne le domaine social, le journal est consacré pour.
Donc, votre domaine, c'est le social.
Le social. La santé, l'éducation, les eaux et assainissement.
Ainsi, à la page 3, j'ai lu cet article. Hussein Métarek et Marem qui s'engagent pour la cause des enfants de rue. Ces enfants dont nous parlons souvent ici au Club de la Presse.
Tout à fait.
Eh bien, quel est la petite oxygène que Hussein Métarek et son partenaire Marem vous apportez à ces enfants de rue?
Il n'est pas sans savoir que Marem est déjà sur le terrain depuis eux. Il s'occupe que de la situation de ces enfants de rue, qu'on appelle communément enfants de rue. Donc, ils nous ont sollicité pour qu'on puisse leur faire un accompagnement financier. Donc, c'est en ce sens qu'en janvier dernier, on a réuni tous ces enfants au niveau de la plage pour leur offrir un repas de fête. Et au cours de cet événement, les enfants se sont livrés, n'est-ce pas? Ils ont livré leur vécu quotidien. C'était un temps de partage et d'enseignement, bien sûr, par des formateurs pour les aider à sortir peu à peu de la rue. L'objectif, c'est ça même, pour qu'ils puissent réintégrer leur famille. Parce que la plupart quittent leur famille par des soucis de violence. Peut-être papa n'est plus là, maman prend un autre homme qui ne supporte pas l'enfant, l'enfant est obligé de sortir. Donc l'ONG Marem, avec notre appui, on fait l'accompagnement peu à peu pour les aider à réintégrer leur famille.
Ces enfants de rue qui sont souvent orphelins de et ou de père et de mère, oui. Ou bien les enfants de foyers divorcés et victimes de la méchanceté, de l'intolérance de la société. Merci pour la petite oxygène que vous, Hussein Métarek, votre partenaire, vous, Marem, vous leur apportez, tout comme la même fondation Hussein Métarek qui soutient les enfants souffrant de cancer.
Oui. Il faut dire que chaque année, le 15 février, le monde se souvient des enfants qui souffrent du cancer. Nous savons déjà que le cancer, c'est une maladie incurable et qui fait beaucoup de ravages. Pour les adultes, c'est déjà compliqué. Maintenant qu'on dise que ce sont les enfants qui en souffrent, et c'est encore plus pénible. Donc, on s'est dit que ce 15 février, qu'on soit à leur côté. Donc, on était au service social du CHU Sylvanus Olympio, où on a rencontré ces enfants. On leur a apporté quelques vivres et non-vivres pour les soutenir dans leur effort de combat contre cette maladie. Et j'avoue que c'est vraiment pénible quand on voit vraiment les pathologies que ces enfants, déjà d'un an, de moins d'un an jusqu'à 10 ans et tout, qui souffrent, et les parents qui sont incapables de survenir pour la prise en charge, c'est vraiment compliqué. Et il faut vraiment qu'on se lève pour aider cette couche vulnérable.
Merci pour cet humanisme. Nous allons terminer avec toi, Hussein Métarek Info, avec cet article à la page 3. L'organisation qui s'engage pour la construction de 50 forages. Nous savons tous que l'eau, c'est la vie. Là où il n'y a pas l'eau, il n'y a pas de vie. Alors que quand on parcourt le Togo et qu'on va par exemple à Naki Est, dans la région des savanes, ou encore à Sigbenga, dans la commune Oti 1, ou encore dans la localité de Kouyakougou, dans la Kéran, on fait le triste constat que les populations et les bétails se partagent au quotidien les mêmes points d'eau.
Tout
alors,
à fait.
Votre fondation veut aider quelques localités avec 50 forages.
Tout à fait. Comme je viens de le dire tantôt, les axes de fonctionnement de la fondation sont l'eau, assainissement, et la santé et l'éducation. Donc, côté eau, nous avons fait le constat que vraiment il y a des difficultés. Du nord jusqu'au sud, aucune localité n'est épargnée. Et dans le souci d'accompagner justement les efforts du gouvernement, parce qu'on n'est pas sans savoir que le budget de cette année, ils ont augmenté encore. L'année passée, c'était 23 milliards. Cette année, ils sont passés à 25 milliards juste pour s'occuper de cette situation d'eau potable. Donc, pour donner un coup de pouce déjà aux efforts que le gouvernement fait, on s'est donné pour défi et pour ambition de les accompagner et de construire 50 forages.
Merci David Aoukou. Il y a d'autres articles intéressants, mais on s'arrête sur les trois en laissant le soin aux auditeurs de se procurer le journal et d'en découvrir le reste et leur contenu. Mais Thierry Afanoukoué, la façon dont tu as salué non seulement David Aoukou, mais quelqu'un derrière, ça veut dire que tu connais la fondation Météric.
Oui, tout à fait. Je dirais c'est la maison. Je suis avec eux, je travaille avec eux. Il faut dire que c'est une fondation qui fait beaucoup de choses à la fois sur front propre, mais pour ce projet de forage là, je crois que ça nécessite beaucoup de moyens. David l'a si bien dit, le gouvernement a augmenté son enveloppe par rapport à ce problème d'eau dans notre pays. Au niveau de la TDE, on fait beaucoup, mais le nombre d'abonnés ou de connectés au réseau de la TDE est très 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 limité. Avec la SPO, il y a aussi beaucoup d'efforts qui se font, puisque la SPO, c'est la structure qui mobilise les fonds et exécute les travaux concernant les points d'eau, forages et autres là dans notre pays, qui par après met ça à la disposition de la TDE pour la gestion. Donc la question d'eau, c'est un problème réel dans notre pays. Vous êtes allé trop 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 loin. Il suffit juste de dépasser le péage de Zanguera ici pour avoir accès à l'eau, ne serait-ce que le forage. C'est le jour, c'est la croix et la bannière. Pas plus que il y a 3 semaines, il y a ceux qui font le forage. Un était décédé dans un puits là-bas, parce que dans la zone là, pour trouver de l'eau, c'est compliqué. Et je crois que récemment, le ministère de l'eau s'est doté aussi des véhicules foreurs. Je crois que tout cela participe à ce que on puisse mettre l'eau à la disposition de toute la population.
Ça veut dire que les besoins sont encore immenses. Les moyens, nous avons besoin de les mobiliser. Le gouvernement fait sa part d'année en année, mais de bonne volonté, comme la fondation Houssein Météric et bien d'autres aussi. David Aoukou.
Oui, tout à fait. Et vous venez de le dire, je porte sur ce plateau de casquettes celle du directeur de publication de Houssein Météric Info et celle du directeur exécutif et financier de la dite fondation. Et je voudrais, à ce titre, lancer un appel vraiment aux sociétés d'État, aux sociétés privées, d'accompagner ce projet. On le dit bien, seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. La Fondation Houssein fait déjà davantage. Les exemples sont légion, mais on voudrait faire beaucoup plus pour mieux impacter. Donc, nos portes sont ouvertes à qui veut nous accompagner dans ce projet très ambitieux.
Merci David, tu restes à nos côtés. À partir de 12h, nous allons ouvrir les antennes. Peut-être qu'un auditeur voudrait en savoir un peu plus sur la Fondation ou sur Houssein Météric Info. Tu seras là pour nous en parler.
Merci.
Et maintenant, nous ouvrons la page sur les défis de l'opération de désengorgement ou de désencombrement des voies publiques. Revue de presse, monsieur l'agent Omer, tu apprêtes bien, tu ouvres bien tes oreilles pour écouter la revue de presse. Commençons par Écho du Pays qui écrit « Désengorgement des voies publiques. Le gouvernement préconise la préservation de la cohésion sociale. » Nouvelle Tribune, paru hier, écrivait lui aussi dans l'opération de désencombrement des voies publiques. Nous sommes à l'étape de la sensibilisation. Ouara la Vainqueur, également paru hier, écrivait que les opérations de désengorgement des voies publiques se déroulent dans le respect de la cohésion sociale. Mais le journal L'Intelligent écrivait hier que le désengorgement des voies publiques se révèle une pilule dure à avaler pour les populations. Autre journal, c'est L'Échiquier, paru aujourd'hui même, qui écrit lui aussi « Désengorgement, panorama d'un déguerpissement douloureux ». Flambeau des démocrates, il consacrait son éditorial hier avec ce titre « Le choc dans la ville ». Cette opération de désengorgement qui concerne et beaucoup plus le secteur informel qui se trouve touché dans son propre cœur. Or, l'article disait que la politique d'aménagement du territoire et d'urbanisation devient problématique aujourd'hui parce que notre démocratie a été calquée sur l'incivisme, la révolte, et dans tout ce temps qui a vu pousser les partis politiques, aucun n'a cherché à éduquer la masse. Dites-nous, monsieur l'agent Omer, comment... dites-nous d'abord, on va y aller par la pédagogie. Nous parlons de voie publique. Mais à votre sens, c'est quoi les voies publiques et leur emprise?
Merci. D'ailleurs, j'ai suivi religieusement les écrits des différentes parutions. Je crois que c'est une bonne chose. Et justement, c'est pour approfondir la sensibilisation que nous sommes ici. Mm-hmm. Parlant de l'emprise, d'abord, l'emprise de façon générale, c'est la bande de terrain appartenant à l'État où sont logés tous les éléments qui constituent l'infrastructure des routes et ponts. Mmh. Ça, c'est l'emprise de façon générale. Maintenant, revenant à l'emprise des voies publiques, cela désigne la superficie occupée par les routes, les trottoirs, les parkings, les jardins publics, les espaces verts, les réseaux de transport public, l'espace de stationnement, etc., en bordure de ces voies. Donc, c'est un domaine qui appartient à l'État et dont la gestion est confiée aux communes sur la base de la décentralisation. Et pour intervenir dans ce domaine, il faut l'autorisation de l'autorité compétente. Donc, les occupants qui sont dans ce domaine aujourd'hui et qu'on voudrait dégager, je crois que on peut les appeler, entre griffes, des occupants illégaux.
Occupants illégaux, mais certains disent que vos agents sont auprès d'eux pour collecter des taxes municipales et autres, et ce qui les fonde à croire que, parce qu'ils paient des taxes, sont autorisés à rester là, monsieur le maire.
Oui, vous avez raison. Je crois que on reconnaît, c'est-à-dire, c'est une habitude qui a tellement duré, et c'est pourquoi nous misons vraiment sur la sensibilisation, parce que c'est l'objectif qui est en fait. Nous comprenons tous que le désencombrement de nos routes est une bonne chose. Et c'est l'objectif qu'il faut vraiment viser. Nous comprenons également que, entre-temps, avant même notre arrivée, il y a quand même de ces autorisations qui sont données. Et ce sont des autorisations provisoires. Il faut insister là-dessus. Les autorisations qui sont données sur ces espaces publics sont des autorisations provisoires, et quand l'autorité juge de l'opportunité de reprendre ces espaces, je crois que l'occupant est obligé de dégager. Donc, ce sont, certes, je reconnais que avant même notre arrivée, il y a eu des autorisations qui ont été données. Nous-mêmes, on en a donné, participé à cela, je reconnais ici, mais ce sont des autorisations provisoires, et que quand le moment est venu de dégager, je crois que les occupants doivent comprendre que c'est une occupation provisoire et que le moment est arrivé de redorer l'image de notre ville.
Espoir avait d'aller plus loin. Tu sais qu'une faute avouée est à moitié pardonnée.
Je l'ai reconnu
donc
ici.
Tu fais un aveu que vous, aujourd'hui, et vos devanciers, vous avez eu à accorder ces autorisations avec ou sans guillemets qui étaient provisoires.
Tout en instituant le caractère provisoire, mm-hmm. parce que c'est un espace public et que quand on autorise quelqu'un à installer son commerce ou son activité là-dessus, la personne doit savoir que c'est une occupation provisoire et que le moment venu, l'autorité voudrait récupérer cet espace-là, il ne devait pas y avoir normalement problème.
Merci, mais c'est une réalité. Ce provisoire a duré des années, voire des décennies. Des gens, certaines personnes occupent ces espaces depuis des années. Dans certaines rues même, les gens ont transformé l'emprise de la voie publique en domicile. Hein, c'est là qu'ils préparent, qu'ils mangent et qu'ils font des enfants, que les enfants grandissent. Maintenant, l'État a décidé d'occuper son domaine. Alors, à quoi répond maintenant le besoin pour l'État d'occuper ces domaines-là et de demander aux gens de dégarpir?
Oui, vous savez que d'abord, les deux points essentiels qu'il faut retenir sur la question, c'est d'abord l'image de la ville. Aujourd'hui, tout dirigeant doit avoir une ambition, du moins pour nos villes ou du moins pour la capitale. Et l'autre point essentiel, c'est la sécurité. Vous savez qu'il y a eu plusieurs cas d'accidents où des véhicules ont déraillé et ont tué plusieurs personnes aux abords de nos routes. Il y a eu le cas d'Adetikopé, il y a eu le cas d'Agoué. Il y a eu plusieurs cas comme ça où les véhicules ont déraillé et ont tué plusieurs personnes aux abords de nos routes. Donc, il y a ce côté sécurité de la chose qu'il faut considérer. Mais il y a également l'image de notre ville qui est en train d'être déstructurée en réalité. Donc, si aujourd'hui l'État prend la mesure de la chose, parce que notons que c'est une décision du gouvernement, prend la mesure de la chose pour quand même corriger cela, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, toutes les considérations qui peuvent rentrer en jeu, délai, parce que vous savez que le gouvernement a donné quand même un délai pour ses occupants-là de dégager. Le délai même qui est arrivé à terme le 15 février. Toutes ces considérations qui rentrent en jeu, je crois que le débat ne doit pas être forcément là. L'essentiel, c'est de viser l'objectif. Tout le monde dit que quand on va, par exemple, à Accra, que Accra, c'est une belle ville, tout le monde parle aujourd'hui de Cotonou, où il y a eu cette même opération de désencombrement. Je crois que l'essentiel pour nous, c'est que le Togo aussi avance. C'est que Lomé également retrouve quand même son image de Lomé la belle d'antan. Maintenant, toutes les autres considérations, je crois que nous prenons ça en compte. Du moins, au niveau de la commune de Golf 1, nous misons beaucoup sur la sensibilisation et nous minimisons, c'est-à-dire c'est avec zéro zèle que nous avançons, parce que il ne s'agit pas d'aller dans la violence ou d'aller avec la force en réalité. Mais il s'agit d'expliquer, de réexpliquer le bien fondé de la chose aux populations. Et vous allez voir que ces occupants, il y a certains qui commencent par partir d'eux-mêmes. Mais il y en a également qui sont restés. Et je crois qu'avec la sensibilisation, nous allons progressivement leur expliquer le bien fondé de la chose. Et ils vont dégager. Ils vont partir, pas dégager, mais ils vont partir d'eux-mêmes.
Je rappelle que l'État qui a initié l'opération préconise la préservation de la cohésion sociale par la pédagogie. Le sujet a été traité au Conseil des ministres la semaine dernière, ce qui n'était pas rien. Alors, tu as commencé à en parler un peu, mais veux-tu revenir un peu sur la phase de sensibilisation qui court jusqu'au 22 février prochain? Comment est-ce que vous y prenez, du moins dans la commune Golf 1, et quelles sont les résistances que vos agents rencontrent sur le terrain dans la phase de sensibilisation et de pédagogie?
Oui, déjà, il faut dire qu'au niveau central, l'État nous a rencontrés, le gouvernement nous a rencontrés, tous les maires de Lomé, et à un plus bas niveau, le préfet, par exemple, du Golfe, a rassemblé toutes les couches concernées. En réalité, il y a les chefs traditionnels, nous-mêmes maires, les présidents de comités de développement de quartier et de comités de développement de village. Donc, les leaders communautaires, on a rassemblé tout ce beau monde-là pour leur expliquer le bien fondé de la chose. Nous également, à notre niveau revenu, au niveau de la commune, on a organisé des séances de sensibilisation et les conseillers municipaux, appuyés par des agents des services techniques, ont sillonné ces voies-là pour expliquer aux occupants l'importance en réalité du désencombrement. Et cette opération a duré plusieurs jours dans notre commune. Et aujourd'hui, nous ajoutons à cela les interventions sur les médias que nous faisons. Le 15 février est passé. Je crois que dans l'agenda, sinon du gouvernement, à la fin de ce mois, on évaluera quand même ce qui a été fait et des décisions seront prises. Mais nous nous disons que il faut maintenir la sensibilisation parce que ce qui est décidé n'est pas une mauvaise chose. Ce qui est décidé va nous aider quand même à éviter des accidents de route et même l'occupation de ces trottoirs et tout, vous allez voir que ça participe même aux inondations. Vous allez me dire pourquoi.
À la lutte contre les inondations.
Non, l'occupation. L'occupation, je dis l'occupation. Contribue aux inondations.
Oui.
Même des déchets qui sont jetés, parce que ces occupants-là sont sur les caniveaux, ils jettent des déchets dans ces caniveaux-là. Donc, ça participe à beaucoup de choses. Je crois que les techniciens auront quand même la chance de mieux expliquer. Et en expliquant, nous pensons que les populations doivent comprendre. Donc, on comprend les difficultés de nos populations. Nous sommes des élus. Nous savons que le quotidien de la majorité des Togolais, c'est le secteur informel. C'est la vente de bouillies, de petits articles et tout ça en bordure des voies. Mais je crois que il faut, à un certain moment, décider d'avancer. J'ai dit, il y a beaucoup de considérations qui rentrent en jeu, le délai et tout ça, mais il faut que les populations elles-mêmes comprennent le bien fondé de la chose.
Il faut avancer même tout en tenant compte
des problèmes sur le terrain. Et justement, nous, au niveau de Golf 1, nous accompagnons. Quand je dis accompagnement, ce n'est pas forcément financier. Mais nous sommes disponibles et quand ces occupants du moins expriment le besoin d'être recasés, de recaser carrément leur activité quelque part, nous les aidons.
Alors, par exemple, justement, quelles sont les alternatives que vous
justement
proposez
par rapport aux alternatives,
vous demandez à quelqu'un de quitter un point où il encombre la voie. Qu'est-ce que vous lui proposez en retour?
Par exemple, je prends des bonnes femmes qui sont en bordure de la route d'Arakpame, qui sont venues nous voir. Avec la décision là, qui sont venus nous voir pour dire, mais qu'est-ce qu'elles vont faire? Mais on leur a dit, elles étaient déjà une cinquantaine, on leur a dit, mais organisez-vous, nous avons une réserve par exemple à Dakpabe d'Anguipé, on peut faire de cette réserve un marché. Mais les femmes se sont organisées aujourd'hui, avec l'appui de nos services, il y a un marché qui est créé au niveau d'Arakpame d'Anguipé. Il y a également d'autres marchés qui sont déserts. Quand je prends par exemple le marché de Difakota, le marché d'enfants, mais ce sont des marchés déserts. Nous disons à ces occupants-là que nos services sont disponibles pour les accompagner, nos services de TAS, les services techniques, pour les accompagner à reloger leur activité dans ces marchés-là. Donc, je crois qu'il y a de l'accompagnement qui se fait et nous souhaitons vraiment que les populations prennent la mesure de la chose. C'est pas au dernier moment qu'elles vont courir vers nous pour dire, monsieur le maire, aidez-nous, alors que d'autres déjà se précipitent pour occuper ces marchés-là. Donc, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation, c'est l'explication qu'on donne à la chose qui
en
va...
En somme, vous, du moins dans Golf 1, vous proposez d'autres solutions
des alternatives,
à ceux qui doivent quitter...
Des alternatives.
Publics. Mais on fait un constat, et un auditeur, enfin, les auditeurs appellent pour s'en plaindre déjà, que les gens déguerpissent les grandes voies, mais pour aller loger leur activité dans les voies secondaires, ce qui fait qu'on ne fait que déplacer le problème. Et c'est justement dans votre commune, Golf 1.
Vous avez raison, mais ça là, je crois qu'il faut opter pour une solution durable. Parce qu'en réalité, là, ce que nous faisons aujourd'hui qui concerne les voies goudronnées ou pavées, ce n'est qu'une première phase. Il faut expliquer la chose comme ça. Parce que il arrivera un moment où on abordera la question également sur ces voies secondaires, ces ruelles-là. Donc, il ne s'agit pas d'aller se réfugier dans ces ruelles-là, mais de trouver la solution qui dure. Et je crois que les populations ou ces occupants qui viennent vers nous pour être recasés dans nos marchés, pour qu'on leur trouve des réserves, pour pouvoir créer des marchés liés à leur activité, je crois que c'est une bonne chose. Donc, l'appel, c'est de leur dire d'opter pour une solution durable et nos services, nous-mêmes en tant qu'élus, nous sommes disponibles. Moi, j'en reçois tout le temps pour leur expliquer.
Le problème, c'est que c'est les riverains de ces ruelles-là qui se plaignent déjà que des gens quittent les grandes voies pour venir les encombrer, les empêcher de circuler. vous risquez d'avoir des mécontentements de ces riverains.
C'est ce que je dis. Il ne s'agit pas de déplacer le problème. Je l'ai dit que l'option la meilleure, c'est de trouver ou d'aller vers les lieux.
Mais dans ce sens, vous comme maire, qu'est-ce que vous faites pour éviter que les gens ne quittent les grandes voies pour aller déplacer le problème dans les voies secondaires?
D'ailleurs, c'est ce que nous faisons ici, on explique. Ou bien, nous expliquons qu'il ne faut pas déplacer le problème. Mm-hmm. Que cette phase-là qui concerne les voies goudronnées et les voies pavées, ce n'est qu'une première phase. Il y aura quand même d'autres phases qui vont concerner ces ruelles-là. Donc, je crois qu'il ne faut pas déplacer le problème. Il ne faut pas opter pour des solutions provisoires. Il faut vraiment trouver la solution qui s'y est. Et je crois que ceux qui nous approchent, ceux qui viennent nous voir, on leur donne des conseils. Nos services les accompagnent pour pouvoir recaser, reloger leur activité.
Merci, monsieur le maire. Il y a également un phénomène. On a vu dans certains endroits la chambre de commerce d'un sud du Togo et certaines communes. Je ne sais pas si Golf 1 aussi est concerné, mais la chambre de commerce, certaines communes ont installé des kiosques aux abords de certaines voies publiques. Alors, est-ce que l'opération concerne également ces kiosques de la chambre de commerce et de ces communes?
Je crois que ces kiosques-là sont également dans les emprises des voies, sinon dans le domaine public. Mm-hmm. Il n'y a pas de déception en la matière, mais je crois qu'un espace public est géré par l'État à travers les structures décentralisées, sinon les communes. Et sa gestion est régie par des textes. Mais je crois que ces kiosques-là également ne feront pas l'exception parce que ces kiosques se trouvent dans des espaces publics. Maintenant, c'est à l'autorité d'en décider. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait exception à la matière.
Alors, est-ce que également Golf 1 a fabriqué de ces kiosques-là qu'il a posés aux abords des voies publiques?
Non, pas encore.
J'espère que vous ne le ferez pas.
Je l'ai dit que la gestion de l'espace public revient à l'autorité. Oui. Et même l'autorisation de son exploitation revient à l'autorité. Si l'autorité juge demain d'exploiter un espace public, il y a une procédure à la matière. Donc, je crois que cette décision revient à l'autorité et pour le moment, au niveau de Golf 1, nous n'en sommes pas encore là.
Merci. Une dernière question pour moi. Vous savez, Espoir, que la nature a horreur du vide. Alors, quand vous aurez fait déguerpir les voies publiques, qu'est-ce qui est prévu? Pour que les gens ne reviennent pas, les occuper encore, ou que ces voies soient, que ces emprises soient aménagées dans le sens et de la sécurité et de l'esthétique de notre ville. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les emprises que les gens sont invités à quitter?
Mais je crois qu'un État, il y a des niveaux de pouvoir. Il y a le gouvernement qui a ses responsabilités en la matière. Il y a également les communes que nous sommes. Nous faisons également ce qui nous revient. Donc l'État, en prenant la décision, je crois qu'il y a déjà l'idée parce que quand vous voyez ce qui est dit au niveau du gouvernement, vous suivez ce qui est dit, il y a quand même l'idée d'aménagement qui revient souvent. Maintenant, nous-mêmes, en tant que commune, il y a une première session extraordinaire que nous avons animée, tenue sur la question, et les réflexions continuent pour voir ce que nous faisons réellement de ces espaces qui seront dégagés. Je crois que ce ne seront pas des espaces qui seront laissés comme ça, mais il y aura quand même une idée d'aménagement, tant au niveau du gouvernement et tant également au niveau des communes que nous sommes, parce que chacun jouera naturellement sa partition.
Thierry, comme le dialogue entre le maire et moi, enfin, l'adjoint au maire et moi, on ne va pas créer des problèmes ici.
Juste peut-être ajouter ceci à ce que l'adjoint au maire vient de dire, c'est que ces espaces publics-là, je crois qu'il a donné la définition, peuvent abriter des ouvrages et installations complémentaires telles que les lignes électriques et téléphoniques, la fibre optique. Vous savez que aujourd'hui on parle du fait qu'on veut faire du Togo un hub en la matière. Donc tout ça là, il faut de l'espace pour faire passer la fibre optique et tout ce qui va avec. Et puis et autre chose, monsieur le maire l'a dit, je crois que nous avons de grands carrefours. Malheureusement, ces grands carrefours nous avons, je crois que si c'est pas cette semaine, ça devait être la semaine dernière, le gouvernement a communiqué sur en conseil des ministres sur la publicité et tout ce qui l'entoure. Malheureusement, les as ou les voies goudronnées ou pavées que nous avons dans notre ville, les grands carrefours de ces axes là sont occupés par des panneaux géants publicitaires. Ça ne devrait pas être forcément que ça. On peut ériger à ces grands points de d'intercession des monuments, comme ça a été récemment le cas au Bénin, où on a érigé des statues des guerriers et autres. Là, à Accra, on en voit aussi, même à Abidjan, dans les grandes capitales, il y a de ces monuments-là, de ces érections des personnalités qui ont marqué l'histoire de ces pays-là. On peut aussi en décider d'en avoir chez nous, à ces grands carrefours-là, sur ces emprises-là et autres-là, comme on l'a aussi au niveau de la colombe de la paix, on a ce monument-là. Malheureusement, on n'en a pas assez dans notre pays. Vous avez vu le grand carrefour au niveau d'Atikou, mais avec la nouvelle voie goudronnée. On peut essayer quelque chose au milieu de la route là-bas. Donc, il faudrait que ces espaces-là soient aménagés, soient dégagés, protégés, sécurisés avant qu'on ne pense véritablement à embellir notre voie. C'est très important. Et puis, revenir sur... c'est vrai que l'agent Omer l'a si bien dit, concernant ces conteneurs qui ont été mis ici et là par le concours de la CCIT, ça fait déjà débat parce que les gens se demandent, ça serait deux poids, deux mesures. On ne peut pas, nous autres, nous chasser des rues, des emprises des rues et laisser ces conteneurs-là prospérer. Quand il s'était agi de les installer au niveau de Aguenivé 1, aux abords du marché. Vous avez vu tout ce que ça a drainé comme problème là-bas. Donc, il faudrait qu'on fasse la chose de la bonne manière pour que demain, cette décision ne soit pas critiquée.
Merci. Nous avons été rejoints par Essahana Germain Pouli, Biasma.
Ah, la fière.
Mieux vaut tard que jamais.
Oui, mais okay. Cette fois, moi, j'ai une bonne excuse.
Ok. Bon, tu as écouté quand même une partie de l'espoir coudoudé sur les désengorgements et les commentaires de Thierry.
Oui, j'ai suivi entièrement le maire que je tiens à féliciter personnellement. Merci. Parce que c'était l'un des nôtres et
c'est toujours. C'est pas c'était.
Bon, je parle toujours passé. Il est beaucoup plus conseiller municipal et agent au maire. Et il a réussi donc la mutation, la transition, tout ce qu'on voudra. Et c'est l'un des élus les plus actifs qui fait beaucoup pour la culture, beaucoup pour la société, dans l'humanitaire, le social. Et il est à côté d'un grand-mère aussi qui, je pense, lui donne beaucoup de responsabilités. Ça fait un tandem assez extraordinaire. Et donc félicitations à Espoir.
Merci.
Pour ce travail abattu et surtout... par rapport à cette étape donc du désengorgement donc des routes, je pense que vous faites un travail assez remarquable. J'ai suivi, vous avez parlé de ces femmes-là à qui vous avez su trouver un marché provisoire. On ne sait pas si ça sera définitif. Et qu'elles seront installées, est-ce que vous allez chercher le financement pour leur construire un marché en bonne ou due forme ou c'est juste transitoire. Après, elles devraient pouvoir se déplacer, aller dans les marchés traditionnels.
Ah oui, Espoir ?
Oui, je crois que c'est vrai que c'est des hangars, juste des hangars de fortune pour le moment, mais il est déjà prévu dans notre plan de marché de cette année, parce que c'est devant une urgence, mais nous, on a toujours la chance quand même de réfléchir. Je l'ai dit, on a tenu une session extraordinaire sur la question même du désencombrement. Donc, il est prévu quand même de construire des infrastructures là-bas pour en faire un véritable marché. Donc, ce sera fait courant cette année.
Oui, peut-être ajouter aussi un mot, puisque depuis quelques mois déjà, la commune, Golf 1, est en train d'aménager le marché de Berre. Je crois qu'il peut avoir aussi de la place là-bas pour ceux qui sont de la zone. On peut aménager, peut-être pourquoi pas aller à un niveau, deux niveaux, trois niveaux avec
justement,
le marché.
Maintenant, commencer à construire nos marchés en hauteur.
Oui, il y a, on a un projet phare, le marché d'Akoré-Sowa. Vous savez que à Akoré-Sowa, il y a deux marchés. Le marché Agbetiafa, qui est géré par la commune, et l'autre qui est géré par une autre structure. Donc,
Laquelle?
Donc, je crois que c'est les PAM, c'est les PAM, c'est géré par les PAM.
Le problème de Golf 4 avec les PAM,
c'est géré par les PAM. Nous avons un grand projet de construction de centre commercial. Le dossier est déjà monté. Nous sommes à la recherche de partenaires pour financer ce projet. Donc, je crois que construire nos marchés en hauteur, c'est une question vraiment importante parce que les espaces ne suffisent plus pour nos commerçants, excusez-moi. Il faut réfléchir à la chose pour pouvoir créer d'autres espaces. Donc, c'est des projets que nous avons. Donc, nous sollicitons quand même la compréhension. Je le répète, nous comprenons les difficultés de nos populations. Parce que on est taxé, on dit, mais vous, vous êtes des élus, mais cette affaire est arrivée, c'est vous qui vous alignez derrière le gouvernement pour nous dégager. Nous, l'ambition, c'est que Lomé retrouve quand même son image
et
d'antan,
son
et que Lomé se développe.
Alors,
parce que nous sommes à Lomé, nous sommes une commune de Lomé.
Nous sommes à la phase de la pédagogie. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 23 février? Pour ceux qui joueraient au récalcitrant, qu'est-ce qui est prévu?
Je crois que nous nous misons sur la sensibilisation et nous comptons sur nos populations. Qui comprend, il y a une partie qui comprend. Je vous ai dit,
et l'autre partie
je vous ai dit, vous pouvez sillonner un peu, du moins, notre territoire. Peut-être que nous, on a la chance. Notre chance, c'est que nous avons plusieurs voies aujourd'hui en chantier chez nous. Ça fait que pour démarrer un chantier, mais les gens sont obligés de dégager. Par exemple, quand vous prenez le boulevard Félix Fouet-Boigny qui quitte Akoresewa pour Fiata, le boulevard 13 janvier, mais ça fait plus de 3 mois qu'on a mis en demeure les gens là-bas. Donc, ça nous permet quand même, ça nous facilite peut-être la tâche. Ça nous facilite peut-être la tâche. Mais sur les autres voies où il n'y a pas question de chantier, je crois que c'est un peu difficile là-bas. Mais nous misons sur la sensibilisation. Nous allons continuer par descendre sur le terrain, expliquer aux populations le bien fondé de la chose. Et je crois que ces populations vont comprendre et vont partir d'elles-mêmes. Sinon, le gouvernement l'a dit, le délai est arrivé à terme. Le gouvernement évaluera la situation. Mais je crois que l'État également, c'est le bâton et la carotte. Mais pour nous, nous misons sur la sensibilisation parce que nous sommes là pour nos populations.
Merci. Ceux qui ont des oreilles ont écouté et comprendraient. Mais non seulement l'État, même nous-mêmes, pères de famille, nous aimons bien nos enfants, mais quand ils sont un peu têtus, nous savons ce que nous leur faisons. Oui, Germain.
Oui, une question, il y en a qui disent qu'ils ont des difficultés pour déplacer leurs conteneurs. Est-ce que vous faites quelque chose dans ce sens pour les aider?
Oui, je crois que nous sommes un conseil et je ne vous cache pas, lors de la session extraordinaire sur la question, ça a été vraiment houleux parce qu'il y a, certains qui estiment que il faut, pour ces cas dont vous parlez, il faut donner un coup de pouce. Je crois que l'idée, en réalité, ce qu'il faut retenir, c'est de tout faire pour amener nos populations à comprendre. Parce qu'il y en a beaucoup, quand nous prenons même ceux qu'on a installés, mais à côté, il y en a beaucoup qui sont allés ériger leur baraque et tout ça d'eux-mêmes. Mais quand vous occupez un espace public, sans même en être autorisé, mais on vous demande de dégager, vous allez demander quand même qu'on vous accompagne. Je crois qu'il y a problème. Donc, en ouvrant même la chose comme ça, on risque d'être envahi. Il faut expliquer. Et nous sommes disponibles. Il faut expliquer. Et je l'ai dit, c'est avec zéro zèle. Parce que nous, pour nous, il ne s'agit pas d'aller avec la force, mais il s'agit de convaincre nos populations pour leur dire, nous avons besoin d'une belle commune, nous avons besoin d'une belle ville, d'une belle capitale, et c'est un passage obligé pour nous, nous devons passer par là.
Merci Espoir Koudjoji, mais tu restes avec nous, il nous reste une quinzaine de minutes, on va quand même parcourir les sujets qui continuent à défrayer la chronique, dont toujours le rapport d'audit de la Cour des comptes sur la gestion de la COVID. Rapide revue de presse avec le confrère L'Union paru aujourd'hui qui écrit que le gouvernement gestion du fonds COVID le gouvernement à la barre de l'Assemblée nationale, écrit L'Union, pendant que Togo réveille de notre ami Germain Pouli écrit les explications du gouvernement aux députés. Et le confrère L'Échiquier, il va aussi de sa plume, il écrit la page 7. que les ministres s'empêtrent dans les auditions à l'Assemblée nationale. Le télégramme du Togo n'y voit que du folklore des ministres pour se donner une bonne conscience. Pendant que le Canard indépendant écrit l'Assemblée nationale dans une posture de déchéance, Abbas Kaboua qui proteste et promet des révélations. Germain, Thierry, pourquoi pas David, si tu veux. Voilà les titres des journaux aujourd'hui sur ce feuilleton qui continue à nous servir des épisodes au jour le jour. Thierry ?
Oui, vous savez, le gouvernement a bien fait de passer à l'Assemblée nationale, mais sauf que je crois qu'il y a un de nos confrères, Nouvelle Tribune, qui avait titré hier « Rendez-vous manqué ».
Oui.
Ouais, je partage, je suis d'avis avec Elomati Sogbe par rapport à ce titre, parce que les explications données n'ont pas répondu totalement aux attentes des populations que nous sommes. Et puis, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est un précédent dangereux, en ce sens que des membres du gouvernement sont tentés de taxer la cour d'appel, la cour des comptes de non-professionnalisme. Puisque, quelque part, les ministres disaient que ils auraient souhaité qu'il y ait confrontation. Je ne sais pas si c'est dans notre pays qu'on va inventer les règles d'audit des comptes. Puisque cette cour des comptes existe, ça fait depuis des années, installée par le président de la République, Faure Essosina Nyasingbe. Et depuis que cette cour-là existe, et depuis qu'elle audite, nulle part, on l'a traité comme c'est le cas aujourd'hui. Mais c'est regrettable pour notre pays.
Maintenant, et tu trouves vraiment un président dangereux.
Ah oui, parce que si des membres du gouvernement se permettent de douter du travail accompli par les commissaires de la Cour des comptes, demain, quand cette même Cour des comptes va auditer X ou Y entreprise ou société d'État, ou comme aujourd'hui on a les communes, les comptes des communes, ces communes ou ces entités-là aussi peuvent remettre en cause l'audit de la Cour des comptes. Mais c'est dangereux pour notre pays. C'est un peu comme la CENI ou la Cour constitutionnelle qui proclame des résultats des élections et les gens disent qu'il y a fraude et les gens doutent de ces résultats-là. Maintenant, si l'institution que nous-mêmes, nous avons mise en place avec tous les tests qui l'entourent, cette institution-là suit les règles d'audit des comptes, de reddition des comptes, et qu'après, on vient nous dire qu'on aurait souhaité qu'il y ait confrontation, il y a problème. Puisque dans le rapport, cette même cour-là avait demandé les preuves des dépenses effectuées. Malheureusement, on n'a pas mis ces preuves à sa disposition. C'est aujourd'hui qu'on nous dise qu'il y a les preuves. Vous voyez qu'il y a problème. Alors que quand, en son temps, la Cour demandait les preuves, les justificatifs des dépenses, on n'était pas en mesure de les apporter. Voilà que le rapport est mis dans le domaine public et que ça jase, ça débatte de tous côtés. On trouve à dire que on a les preuves. Par exemple, pour le cas de Novici, la Cour avait dit dans son rapport que le reliquat n'était pas reversé à l'État. Ça voudrait dire que sur le compte Timoni ou Flouze de l'État, quand la Cour auditait, il n'y avait pas le reliquat. Mais la ministre nous disait l'autre fois que maintenant, il y a le reliquat. Mais on est où là? Oui. Alors que dans le même rapport, la Cour, quand il demandait les preuves des dépenses effectuées ou encore la liste des bénéficiaires et le ministère et MOVE ou encore TogoCorp n'étaient pas en mesure de mettre cette liste-là à la disposition de la Cour. Mais aujourd'hui, on nous dit que cette liste-là des bénéficiaires est disponible et est consultable. Mais c'est regrettable.
C'est vrai que ce rapport... est une véritable leçon pour nous tous depuis le 1er février. Et
ça va faire jurisprudence.
La Cour dit qu'elle avait demandé des preuves que des ministères et institutions n'avaient pas daigné lui fournir. Et maintenant, ce sont ces preuves que des ministres vont étaler à l'Assemblée nationale avec des propos qui laissent à croire que pour les ministres, la Cour n'aurait pas bien fait son travail. Germain, c'est en cela que Thierry parle d'un précédent qui peut se révéler dangereux.
Un précédent dangereux, non, je pense pas. Je pense que c'est maintenant que nos institutions fonctionnent réellement, parce que cette Cour-là était pendant longtemps comme un ornement. Et on se disait que c'est une institution créée pour les beaux yeux de l'extérieur et tout ça, au point où elle n'avait pas un réel pouvoir. Alors, ce qui laisse transparaître cette affaire, c'est que le gouvernement et l'ensemble des membres de la coordination de la riposte n'ont pas coopéré avec la Cour. Donc, il n'y a pas eu de collaboration. Et on peut dire à ce moment, ils ont manqué de respect à la Cour, ou ils n'ont pas cru que la Cour a une force. Et ce n'est pas eux seuls. Vous savez, il y a eu des élections ici, les candidats étaient financés, tout ça. Les comptes à la Cour, c'était carrément de la pagaille. Donc, depuis tout ce temps, personne ne respectait véritablement cette Cour-là. Alors, il a fallu que la Cour publie et qu'on nous dise aujourd'hui que le logo, par exemple, n'a pas coûté 15 millions et qu'il a coûté 150 000, ce qui est plus ou moins raisonnable. Qu'on nous explique un certain nombre
mais
de choses.
Mais pourquoi on n'a pas expliqué ça à la Cour en ce temps?
Au moment où la Cour demandait les documents, il fallait collaborer. Et le gouvernement n'a pas collaboré. Maintenant que ça lui tombe dessus, il sort des preuves. Il peut être de bonne foi ou de mauvaise foi, on n'en sait rien. Mais c'est qu'au bon moment, le gouvernement n'a pas collaboré. Tout comme toutes les entités qui sont concernées par le travail de la Cour des comptes et qui n'ont pas l'habitude de collaborer. Les gens se disent, bon, qu'on envoie au pouvoir, ils feront le rapport qu'ils veulent. De toute façon, ce rapport ne servira à rien. Donc, avec ce qui s'est passé sur ce cas-là, véritablement à partir de dans les prochains jours, je pense que les gens, pour éviter de se justifier tardivement avec peu de crédit, aujourd'hui certains croient, d'autres ne croient pas à la version du gouvernement, mais pour éviter tout ça, il vaut mieux collaborer, fournir le maximum d'éléments à la Cour pour qu'elle puisse travailler. On voit que ça n'a pas été fait parce qu'on a pris l'habitude de ne pas respecter cette Cour. Je ne parle pas seulement des membres du gouvernement. Tout le monde, tous ceux qui sont concernés, se disent, voilà, c'est des gens qui sont là-bas. Bon, de toute façon, c'est une formalité. Et je vois que, et avec cette affaire-là aujourd'hui, ça va permettre aux institutions de bien fonctionner. Cette Cour-là...
Merci. Je rappelle que la Cour des comptes est une institution de la République et mérite un minimum de respect.
Tout à fait. Hein?
Quand la Cour demande, interpelle, on doit se plier, lui apporter les éléments et surtout certaines déclarations de certains ministres devant l'Assemblée sur la Cour des comptes, ce n'est pas un bon exemple. J'espère que nous allons respecter une autre institution. C'est la médiature de la République qui, entre autres attributions, doit recevoir la déclaration des biens et avoirs des plus hautes autorités de l'État. C'est inscrit dans la Constitution. Ça a mis du temps, mais finalement, je crois, en 2020, la loi organique a été prise. Mais si je ne m'abuse, c'est Mme Awa Nana seule qui nous a dit qu'elle a fait sa déclaration des biens à soi-même.
Non, devant la Cour constitutionnelle.
Ok, c'est la seule qui a déclaré. Bon, maintenant, au lieu qu'on applique la loi, on a pensé faire des sensibilisations. Nous-mêmes, journalistes, on nous a sensibilisés. Je ne sais pas en quoi nous sommes concernés pour la déclaration des biens et avoirs. Mais la sensibilisation continue. Et il y a quelques jours, le médiateur de la République a rencontré et échangé avec les membres du gouvernement. Togo Réveil nous en parle. Le médiateur de la République a échangé avec le gouvernement et l'Union, le journal L'Union, annonce même que le démarrage de la déclaration des biens et avoirs, c'est le 1er mars 2023. Alors, Germain, j'espère que ceux qui sont concernés par la déclaration des biens et avoirs vont respecter Mme Awa Nana en sa qualité de médiateur de la République.
Oui, elle s'est prêtée à l'exercice il y a plus d'un an. devant la Cour constitutionnelle comme le stipulait la loi. Et donc, elle a mis du temps. Elle a ouvert cette séance de sensibilisation il y a quelques semaines. Les membres du gouvernement y étaient en promis qu'ils allaient le faire. Et donc, quand cette fois-ci, elle va rencontrer la chef du gouvernement et les autres membres de l'équipe gouvernementale, c'est dire que les choses sérieuses vont commencer. Ça va commencer par les ministres. Et comme l'a dit l'Union, comme nous l'avons su le relever aussi dans notre parution ce matin, donc c'est début mars qu'effectivement les premières déclarations de bien y avoir, en tout cas en dehors de celle du médiateur elle-même, vont commencer. Et je crois que c'est elle qui programme les catégories de personnalités concernées. Mm-hmm. Et donc elle a prévu commencer par les membres du gouvernement à partir de début mars. Et je pense que si ce calendrier est respecté, on va rentrer dans le vif du sujet, en attendant que les journalistes aillent aussi déclarer leur vie.
Mais avant les journalistes, ok. Je ne sais pas ce que nous, journalistes, quels sont les biens que nous allons déclarer, mais soit, si on nous fait l'honneur, d'accord. Mais Thierry,
vous allez déclarer vos copines.
Non, nos copines ne sont pas des biens quand même. Eh bien, madame a commencé par sensibiliser nous, les journalistes. Maintenant, elle a continué avec le gouvernement. Mais au sommet du gouvernement, il y a de plus grandes personnes. Est-ce que Mme Moana ira également les sensibiliser?
Pourquoi pas? Puisque c'est la voie qu'elle a choisie. Ouais. Elle veut passer par la sensibilisation avant de rentrer dans le concret du sujet. Mais vous savez, je ne sais pas pourquoi au Togo nous cherchons à se singulariser en toutes choses. Parce que ailleurs, cette cérémonie, ou du moins cette étape de déclaration des biens, quand elle est faite, elle est rendue publique. À quoi ça sert de mettre, d'aligner des trucs sur papier et d'aller remettre à madame le médiateur de la République? Ça n'a aucun effet. En tout cas, c'est ce que moi je pense.
Le problème, c'est que ça même là, faire ça sous pli et lui remettre au secret, même ça même ne se fait pas. C'est ce qu'on a du mal à comprendre.
Non, puisque je crois qu'ils sont sensibilisés. Je crois qu'il y a eu une communication, il y a eu plusieurs communications là-dessus au niveau du Conseil des ministres. Donc, ils sont sensibilisés au plus haut niveau. Ça doit commencer par le numéro 1 et on va descendre jusqu'au dernier. Tout le monde, en tout cas, les concernés. Parce que moi, je ne sais pas ce que j'ai comme bien pour aller déclarer devant Madame Awanana. C'est eux qui gèrent ce pays. C'est eux qui ont cette responsabilité-là. Et comme vous l'avez si bien souligné, je crois que pour cette fois-ci, ils ne vont pas manquer de respect à cette institution-là. Parce que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit sur la Cour des comptes, c'est extrêmement grave que... c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que si nous ne respectons pas nos institutions, je crois que ça avait fait débat quand Agbiome utilisait, je ne sais pas s'il faut dire abusement, les emblèmes du pays. On voulait lui coller un procès par rapport à ça, mais quand nous ne respectons pas.
On voulait ou bien,
on lui a
collé. Voilà.
Voilà, un procès par rapport à ça. Donc, quand nous ne respectons pas aussi les institutions de la République, il faudrait qu'on colle aussi des procès à ces ministres-là qui se permettent de dire. Je crains même que demain, il n'y a pas des mouvements au niveau de la Cour des comptes où on va changer des gens parce qu'ils ont osé, laisser.
Est-ce que ce et avec est-ce l'intervention que cela de. Aura la, été la solution au problème.
Avec l'intervention, et puis vous voyez l'intervention de d'Abbas Kabwa qui apporte encore de l'eau à la situation. Vous voyez, donc ça ne fait pas sérieux. Au début, on nous disait que c'était le gouvernement même qui avait commandité cet audit là, mais avec Kabwa, on apprend que c'est la BAD, puisque dans le document, je crois, il y avait cette trace là aussi. Donc vous voyez, donc c'est comme si on ne nous dit pas tout le temps la vérité dans ce pays.
Les enseignants nous parleraient de la pédagogie de l'exemple. Quand le maître fait la leçon, il donne un exemple pour illustrer. C'est après qu'on peut punir l'enfant s'il ne l'a pas fait. On va terminer avec le FOPAT qui est à son quatrième acte depuis hier. Sûrement qu'à l'apothéose demain, le chef de l'État va se déplacer et rencontrer encore les producteurs agricoles avec Germain L'Espoir, que le chef de l'État saura avoir le temps pour écouter les producteurs agricoles, lui exposer leurs difficultés et leurs souhaits.
Ben, on peut dire que ce sont les enfants chéris du président de la République. C'est la seule couche qu'il rencontre régulièrement, presque tous les ans, depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et donc, c'est sûr que à ce côté, il ne va pas manquer au rendez-vous. Et c'est une bonne option. L'agriculture, aujourd'hui, ça peut être la base véritable de notre économie. C'est ce que nous pouvons faire aussi facilement que par rapport aux autres domaines. Et il est intéressant, donc, qu'il y ait cette collaboration-là entre le gouvernement et les paysans. Donc, je crois que c'est le rendez-vous, la tradition sera respectée. Le président arrivera dans une sphère qu'il maîtrise bien. Les agriculteurs aussi, aujourd'hui, ont pris aussi, ils sont à l'aise et puis ils arrivent à dénoncer beaucoup de choses devant le chef de l'État, ce qui ne va pas. Et donc, ce qui fait que finalement, le président apparemment aime bien cet exercice où il va directement au contact des concernés. Surtout qu'aujourd'hui, au niveau de l'industrialisation, le Togo compte énormément sur l'agriculture, donc pour avoir des productions assez.
Merci Germain, merci à Thierry, merci à David, merci également Espoir. Mais il est 12h, que nous avons même dépassé de 3 minutes. Nous allons suspendre nos échanges ici, le temps de souffler un peu avant de nous brancher sur les auditeurs qui vont entrer en scène sur les deux numéros, le 22 21 33 74 ou le 91 36 63 75. 93.5. Canal FM. Eh bien, nous revenons ici au studio pour recevoir vos commentaires et vos questions. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet exposé. Le journal Hussein Météric Info, la discussion que nous avons eue avec le 3e adjoint au maire de Golf 1 sur la problématique de désengorgement de la voie publique et les sujets d'actualité que nous avons commentés entre nous les confrères. Déjà un auditeur en ligne, bonjour.
Bonjour monsieur Sors, comment vous allez?
Nous rendons grâce à Dieu, c'est monsieur?
C'est monsieur Bako, commerçant au Grand Marché.
Ok, allez-y.
Oui, monsieur, ça, c'est à propos du désengorgement des voies publiques.
Oui.
Oui, nous, on est au marché encore, les gens de Tikelazien, de Tekazien, ça, on va aller.
Bon, là, vous êtes au marché, mais est-ce que vous êtes sur la rue, dans la rue au marché?
On n'est pas dans la rue. Ils nous interdisent même de...
Comment bon, est-ce que vous êtes dans votre boutique?
Ah, ça, moi, j'aime pas exemple le boutique.
Pardon?
Je dis, j'aime pas l'argent pour louer du boutique.
Mais là où vous occupez, est-ce que c'est la voie publique telle que le maire Espoir Koudjadji l'a définie bientôt? Eh bien, il y a un moment.
Vous dites, je ne vous ai pas bien entendu.
Je dis, là où vous occupez là, est-ce que c'est du domaine public? Est-ce que vous êtes dans la voie publique?
C'est au bord du goudron.
Oui, le bord du goudron, pour l'État, c'est la voie publique.
Ça, dans le marché aussi.
Mais dans le marché, il y a des rues. Il faut que les gens puissent circuler dans le marché aussi.
Ils nous disent de rester dans notre boutique, de ne même pas sortir.
Oui. Vous restez dans votre boutique, les gens vont marcher dans la rue pour venir chez vous et ressortir.
C'est compliqué.
Ah oui. Merci. Quelqu'un a dit la loi est due, mais c'est la loi. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour, moi, monsieur Koudjadji. Moi, Didier.
Didier, oui.
J'ai une petite question à vous poser là.
Oui.
Moi, je me suis plaint plusieurs fois chez vous-même, plusieurs fois que les gens occupent illégalement ma rue en installant des baraques, des conteneurs.
Oui.
Maintenant que vous avez permis aux gens de le faire, je dois continuer pas me plaindre ou bien je dois prendre comme c'est la loi, ils ont l'obligation, ils ont le droit d'installer les trucs sur la rue là. Je peux vous dire la rue c'est tout.
En tout cas, Espoir avait répondu à cela, mais je vais lui repasser la parole.
Est-ce que je ne continue pas à me plaindre ou bien je m'étais
Espoir, c'est que les gens qui ont quitté la voie goudronnée sont allés occuper Saint-Ruel. Maintenant, est-ce qu'ils doivent venir se plaindre chez vous ou bien à un autre niveau? Merci Didier. Espoir va vous répondre bientôt. Le suivant, bonjour. Ah, allô?
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur?
Pas de nous.
Oui. Nous vous écoutons.
La question que notre grand frère vient de poser, c'est ça, moi, je voulais vous poser.
Mm-hmm.
Et ma deuxième question concerne les feux tricolores sur nos routes et les panneaux solaires.
Oui.
D'autres ne travaillent plus, ne fonctionnent plus. J'aimerais demander si c'est la mairie qui s'occupe de ça ou c'est la société.
Ok. Qui gère les feux tricolores? Le maire Koudjordi nous dira pour la commune Golf 1. Le suivant?
Oui, monsieur Sassou.
Oui.
L'opération du désengagement en soi n'est pas une mauvaise chose.
Oui.
Mais c'est la manière dont elle est organisée.
Uh-huh.
Normalement, ces espaces administratifs, normalement, ça devait être aménagé dessus.
Bon, qu'est-ce que vous reprochez à l'opération maintenant de désengorgement?
Ce que je dis, ce n'est pas une mauvaise chose en soi.
Oui.
Mais ces espaces administratifs-là, ces réserves-là,
oui,
on devait les aménager dessus et demander à ses occupants de l'installer. Installer là-bas. Et ce déménagement, ce n'est pas une chose facile, hein, monsieur Chassi.
Ok.
Pour même prendre un conteneur à aller déposer quelque part, c'est de l'argent. Hein. L'État n'a pas accompagné ces messieurs. C'est ça le problème. Et puis au Togo, on a l'impression qu'on a seulement des hommes forts à la place.
Non, Sylvain, vous comprenez que la justesse de l'opération de désengorgement.
Oui, moi je comprends bien.
Ok. Maintenant, ok. Le maire va vous répondre bientôt. Le suivant, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui.
Johannes.
Oui.
Je vais intervenir sur deux points. Tout d'abord, est-ce que les maires savent quand même que une décision, qu'elle soit gouvernementale, ils ne sont pas. En fait, ils peuvent attaquer cette décision de façon administrative. Parce que moi, je m'étonne. Vous êtes des élus, c'est le peuple, les populations qui vous ont élus. Si une décision est contraignante pour ceux qui vous ont élus, c'est à vous d'abord de voir comment cette décision peut arranger, comment elle peut être appliquée pour arranger vos administrés directement. Moi, je m'étonne que tous les maires se cantonnent sur la position du gouvernement et veulent appliquer sans même demander. Qu'est-ce qui vous empêche de demander au moins, même si vous n'êtes pas en droit de refuser d'appliquer cette décision dans vos communes. Qu'est-ce qui vous empêche de réclamer une prolongation, c'est-à-dire un délai, davantage de délai?
Mm-hmm.
Parce que vous avez remarqué, c'est ce qui choque beaucoup de personnes, que le délai est trop court. Qu'est-ce qui vous empêche d'appliquer? Parce que les mêmes, c'est uniquement sur les radios,
merci,
sur les antennes que vous dites.
Votre seconde préoccupation?
Voilà, c'est important qu'il nous réponde sur ce point.
Il va vous répondre, si vous laissez le temps. Si vous laissez le temps.
Le deuxième point.
Oui.
Vous dites que les ministres n'ont pas présenté des preuves quand la Cour des comptes en a réclamé, mais ils sont allés étaler des preuves devant l'Assemblée. Juste vous dire qu'aucun ministre n'a présenté aucune preuve à l'Assemblée la dernière fois. Aucune preuve n'a été présentée, c'est juste des paroles. Merci.
Je vous en prie. Le suivant.
Allô, bonjour monsieur Sass.
Papa Sordiné depuis Amoutievé.
Voilà.
Nous vous écoutons.
En ce qui concerne la déclaration des biens des grandes personnes, des grandes personnalités là.
Oui.
C'est ça qu'un journaliste a soulevé tout à l'heure. À quoi sert si ça va écrire ça et aller déposer chez le médiateur de la République?
Mm-hmm.
Mais il faut qu'ils déposent ça ouvertement. Quand ils ont peur de quoi? Parce que si on écrit, on va déposer, il y a quelqu'un peut connaître le bien de telle ou telle personne. Et s'il n'a pas déclaré ce bien, la personne peut dire non. Celui-ci a un tel bien à côté ici, etc. Donc, merci, bonne journée.
Papa Sordiné, je peux vous dire que la loi est. Il y a une loi organique hein, qui a défini les modalités de la déclaration des biens. Hein, donc, ça ne peut se faire qu'en respect de cette loi pour le moment. Le suivant, bonjour.
Oui, allô, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Ange depuis Atiégou.
Depuis Atiégou.
Ouais.
Ok, Ange, nous écoutons.
Je vais intervenir à propos du sujet du déversement là.
Oui.
Pardon, les gens de l'EPAM qui gèrent les marchés là, depuis on nous a dégagé sur les voies, on est passé faire la demande. C'est pour certains, ça fait déjà 3 semaines, 2 semaines sans réponse. Alors qu'on est allé payer encore les quittances au travail de faire les demandes. Le maire, il en pense quoi? Ou bien comment?
Donc, vous êtes parti de la voie publique, vous êtes allé vers l'EPAM, vous avez payé, mais vous n'avez pas encore de place. C'est
oui.
Ça? Ok. Ok. Merci beaucoup.
Au marché de Hedrana, oui. Mm-hmm. Vous pouvez passer, vérifier, voir les gens. Même il y a les gens qui ont fait les demandes bien avant nous, mais sans réponse toujours.
Ok. Merci. Comme il y a beaucoup de questions, on va prendre juste un dernier intervenant pour laisser le temps au maire de répondre. Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Comment vous allez?
Comme vous nous écoutez.
Bon, moi je demanderais quand même qu'il faut qu'on ait la crainte de Dieu. Il faut que nos dirigeants, hein, il faut que vraiment nos gouvernants là, c'est-à-dire qu'ils peuvent respecter le peuple togolais et avoir la crainte de Dieu. Nous sommes là pour combien de temps? Je n'ai jamais vu enterrer une personne avec toute sa fortune. Ou bien vous avez une fois vu sa face, un véhicule dans un certain. Vous voyez. Donc, je crois qu'il faut qu'on cesse vraiment cette pagaille. Vous savez, c'est devenu une risée. Hein? On se moque de nous. Allez, sérieux, ce n'est pas bien. Deuxième chose, déclarer les biens. Mais écoutez, comment est-ce que vraiment la médiateur de la République va dire non, qu'on va déclarer, mettre ça dans une enveloppe. Mais c'est des aléatoires. Quand on nous soit sincère, parce que gérer une nation, mais ce n'est pas gérer une propriété privée. Je vous remercie. Bonne
je vous
journée.
En prie, je vous en prie, l'ami évangéliste Senghor. Souffrez, qu'on s'arrête ici, le temps que les interpellés puissent vous éclairer. Juste un impératif.
Canal FM.
Pour la pertinence de leur développement, Espoir Koudjodji. Beaucoup de questions s'adressent à toi en tant qualité d'agent au maire de la commune Golf 1 à peu demain. D'abord, Johannes, qui vous demande d'attaquer la décision de l'État en justice si vous estimez que ce n'est pas au bénéfice de vos administrés.
Oui, je crois que...
Le micro.
Je crois que la procédure est autorisée, mais il faut jauger vraiment la pertinence... De la décision qui est prise ou l'importance de la décision qui est prise par le gouvernement. Désencombrement de nos voies, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Mais tout le monde reconnaît que c'est une bonne chose. C'est peut-être par rapport au délai et à d'autres considérations que les gens trouvent à dire. Donc, je crois que, je l'ai dit dans mon intervention, c'est l'objectif qu'il faut viser. L'objectif à la fin, c'est quand même de désengorger nos voies et d'éviter toutes les conséquences qui arrivent quand nos voies sont dans l'état actuel ou les conséquences qui arrivent quand nos voies sont encombrées et tout ça. Maintenant, j'ai aussi dit que nous sommes des élus. Nous comprenons les difficultés de nos populations et c'est pourquoi nous misons sur la sensibilisation. Nous ne réglons pas cette affaire-là par la force, mais nous allons vers les gens pour leur expliquer et nous proposons même des alternatives. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Je crois que nous allons continuer, nous allons maintenir le dialogue, nous allons maintenir quand même cet élan, cette attitude d'expliquer, de réexpliquer le bien fondé de la chose à nos populations. Et il y a la question de délai, je crois qu'on l'a évoqué, mais ce n'est pas sur une radio. Nous avons eu des échanges quand même avec les membres du gouvernement qui nous ont reçus, mais ce n'est pas sur une radio. On l'a évoqué devant ces autorités-là. Mais reconnaissez aussi que même si on donnait un an, une année aux gens de quitter, il y aura certains qui ne vont pas quitter.
Merci.
Il faut reconnaître rapidement. Ça comme ça. Donc c'est pourquoi nous, ouais. Le délai quand même est arrivé à terme, mais nous continuons toujours dans la logique d'expliquer aux gens, de sensibiliser et de les amener eux-mêmes à quitter.
Merci. L'autre préoccupation, c'est ceux qui quittent les grandes voies pour aller occuper les voies les petites voies secondaires. Didier, Kpadé, sans revenir là-dessus.
Je l'ai expliqué ici que la solution doit être durable. Il ne faut pas déplacer le problème en quittant les grandes voies pour se réfugier dans les ruelles. Parce que, tel que le gouvernement l'a dit, c'est une première phase qui concerne les voies goudronnées et les voies...
Ça, tu l'as dit. Le problème, c'est les riverains qui se trouvent embêtés par ceux qui viennent...
Mais il doit se plaindre. Pourquoi il dit qu'il ne va plus se plaindre? Peut-être qu'il s'est plaint, il n'a pas eu de réponse. Mm-hmm. Mais moi, je l'encourage. Nos services sont ouverts. Moi-même, je suis disponible. Moi, mon bureau, c'est derrière la clôture de l'aéroport à Dido, mais là-bas. Et mon bureau, mon bâtiment abrite les services techniques qui sont en charge de ces questions-là. Il peut passer me voir... Et on fera une visite de terrain pour régler le problème. Il a le droit de se plaindre.
Merci. Ceux qui ont quitté la voie publique, qui sont allés payer la quittance à l'EPAM, mais ils n'ont pas encore leur place dans les marchés de l'EPAM.
Je crois que nous sommes une radio. Les autorités, ou sinon les responsables, excusez-moi, de l'EPAM sont à l'écoute. Nous-mêmes, nous avons quand même des relations avec les responsables de l'EPAM. On peut toujours attirer leur attention sur ces faits. Et que des solutions soient trouvées à ces gens-là. Parce que nous encourageons plutôt les gens à aller dans les marchés.
Merci. Un autre ami qui est revenu sur les feux tricolores, ce n'était pas l'objet aujourd'hui, mais les feux tricolores de la commune, qui sont dans la commune Golf 1, là.
C'est nous qui les gérons.
Vous les gérez?
Même l'extension et tout ça, c'est nous.
C'est vous qui les gérez?
Ouais.
Donc vous assurez que vos feux marchent bien?
Oui, ça, un appareil électronique peut tomber en panne. Mais c'est d'avoir une équipe qui veille. Et qu'à chaque fois qu'une panne survienne, que des solutions soient rapidement trouvées pour permettre à la circulation de fonctionner normalement. Sinon, on ne peut pas dire qu'il y aura zéro panne sur des feux tricolores, je n'en pense pas.
Merci. D'autres auditeurs sont revenus sur la déclaration des biens et bien d'autres choses. On n'a pas le temps de leur répondre individuellement. Plutôt, comme on le fait de tradition, une minute à chacun d'entre vous. Pour vos conclusions et si vous avez un carton à la fin. Germain, il sort à Napoli.
Bon, la conclusion rapide sur le désengorgement. Je pense que le gouvernement a rendu un grand service à certains maires qui n'ont jamais eu le courage de faire ce travail. Aujourd'hui, ils se disent que c'est le gouvernement qui a demandé, alors que ça les arrange en réalité. Mais il faut saluer cette collaboration entre les maires et le gouvernement. A été un succès de la décentralisation, il faut le reconnaître. Et il y a une bonne collaboration et surtout la compréhension des populations. Maintenant, mon carton va à la Société Togolaise de Rhumatologie, qui est une association de médecins qui ont choisi la date d'aujourd'hui pour aller consulter et soigner gratuitement tous ceux qui souffrent d'affections rhumatologiques dans la préfecture de Kloto, donc à Tapame, depuis ce matin.
Non, à Tapame, c'est pas Kloto.
Plutôt à Palimé.
Okay.
Depuis ce matin, ils sont au CHP, Centre Hospitalier Préfectoral de Palimé. Je fais un crochet rapide là. En tout cas, je viens de là. J'ai vu plein de patients qui sont allés parce que justement, il n'y a pas ce service dans cet hôpital-là. Et ces médecins venus pour la plupart de Lomé vont travailler 2 jours, peut-être plus.
Merci pour ce carton vert teinté d'humanisme. Thierry Afankoué?
Non, pas de carton.
Merci. David Aoukou?
Oui, je dis merci à Canal FM pour cette belle émission. Merci aux confrères. Et je dis merci à toute l'équipe de Hussein Meterek Info. On se bat pour donner de la vraie information sur le social. Je réitère, n'est-ce pas, notre appel envers toutes les bonnes volontés, les sociétés, à nous accompagner pour cet ambitieux projet de faire 50 forages en eau potable. Et pour terminer, je donne un carton vert à tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des couches sociales. Et je fais un clin d'œil au professeur Hussein Meterek, qui est le président de la dite fondation. Merci.
Merci. On se retrouve dans 2 mois à la prochaine parution de Hussein Meterek Info.
Tout à fait.
J'espère qu'on n'aura pas oublié d'ici là les articles parus aujourd'hui.
Non.
Est-ce pas vous, Jody?
Non, merci. Ça, c'est merci à toute l'équipe pour l'opportunité qui nous a été donnée d'aborder cette difficile question. Vous comprenez parce que il faut faire comprendre quand même. À nos populations, l'importance de la chose, alors que c'est quelque chose qui est tellement ancré dans nos habitudes depuis fort longtemps. et que vous savez aussi que les grands changements ont toujours eu des difficultés à être déroulés. Je crois que c'est en continuant de sensibiliser, c'est en continuant d'éduquer nos populations que nous aurons les résultats sur la question. Mais nous nous maintenons quand même le dialogue avec nos populations. Nous comprenons que ce sont ces populations qui nous ont placés là où nous sommes et que quand quelque chose va dans le bon sens, même si la compréhension n'y est pas encore, on comprend leurs difficultés, mais progressivement, on va les amener à comprendre. Je vous remercie.
Merci. Nous saluons notre ami Francisco Napokura, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Il se trouve à Balavé, Tchadomé, pour enterrer son oncle maternel Fialo Segbeji Agbapeu, qui est mort et qui sera enterré demain. L'occasion pour nous de vous exprimer nos condoléances à vous tous, chers confrères, personnes ressources, ou bien auditeurs, vous qui êtes en deuil, vous qui enterrez un parent, un collègue, un voisin, ce week-end, nous sommes de tout cœur avec vous. Mais la vie continue. Nous qui sommes encore vivants, on peut peut-être aller à l'Insu français du Togo ce soir pour aller voir l'artiste Amen Viana. Il est guitariste, chanteur, compositeur et arrangeur. Il s'est créé des univers sonores étourdissants tout en puisant aux racines de la musique africaine. Il vient de sortir son 6e opus intitulé Afro-Canaliste. Donc on peut aller le voir sur scène à l'Institut français du Togo pour changer les idées. Ou bien demain, on peut aller à la Grande Nuit de l'Amour et voir sur scène, scène en live, Toto Patrick et Patrick André, qui seront en live, en concert live, au Grand Rex de Lomé, demain samedi. Et toute activité également, couper un peu avec la routine, s'aérer l'esprit et nous revenir en bonne santé physique et mentale et financière aussi, le lundi prochain à 11h pour le Club de la Presse qui reprend.